L'heure de pointe, David Torchala.
Bonjour et bienvenue dans l'heure de pointe, le magazine de société sur Radio Présence. Bonjour Delphine Pereira.
Bonjour David, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste pour le groupe La Dépêche du Midi, La Nouvelle
toujours.
République. Toujours. Oh ouais. Et puis aussi chroniqueuse pour cette émission quand même. Beaucoup sur Radio Présence. Aujourd'hui, on va parler de l'hôtellerie de Lourdes. Pour en parler, évidemment, nous avons notre invité qui va nous accompagner pendant cette émission, c'est Nathalie Jarreau.
Bonjour Nathalie. David, bonjour à tous.
Nathalie, il faut dire, Nathalie Jarreau, vous êtes docteur, vous venez de soutenir une thèse, vous êtes docteur en sciences de gestion, vous avez soutenu votre thèse assez récemment à l'Université de Pau et des Pays de la Dour sur notamment le déclin d'une destination touristique à l'aune de la Covid-19, l'analyse et perspective pour le secteur de l'hôtellerie. On va parler du cas de Lourdes avec vous. Delphine, vous le savez, Lourdes est quand même connue pour son hôtellerie.
Tout à fait. Il paraîtrait que nous sommes la deuxième ville hôtelière après Paris.
Alors ça, on va vérifier avec
tout
vous, Nathalie.
Tout à fait.
Est-ce que ça,
vous
c'est vrai?
Vous avez raison.
Ah, bah, parfait. Et,
alors...
et c'est vrai que c'est une hôtellerie qui a notamment souffert, alors déjà d'un déclin un petit peu structurel depuis de nombreuses années. On va en parler ensemble. Et puis surtout, cet épisode douloureux de Covid-19, voilà, qui est venu bousculer les habitudes de l'hôtellerie à Lourdes, bouleversée, vraiment, on peut le dire aussi. Et donc, vous avez fait vos recherches et ainsi jusqu'à l'année 2021. Et puis, depuis, les choses avancent et les choses évoluent. On va en parler ensemble. Mais d'abord, une première question, Nathalie Jarreau. Comment arrive-t-on à soutenir une thèse sur l'hôtellerie de Lourdes? D'où vous est venue cette inspiration?
Oula! Alors, inspiration, en fait, c'était un besoin, je crois, puisque au moment où j'ai commencé la thèse, la recherche a été faite sur 2 ans, 2019-2021. Ensuite, il y a eu 2 ans d'écriture. Mais entre 2019 et 2021, j'étais directrice marketing et développement touristique de l'Office de tourisme de Lourdes. Et donc, j'ai eu un besoin de comprendre le territoire, de comprendre le terrain, les problématiques, les enjeux, et pour pouvoir proposer des solutions pour développer touristiquement le territoire.
Donc, immersion totale dans le quartier des hôtels de Lourdes, c'est ça ?
Exactement. Donc, d'où la recherche et le besoin d'aller comprendre le phénomène. Et d'un point de vue scientifique, pour vraiment adapter et avoir des solutions qui fonctionnent, en fait. D'où la science de gestion, qui sont applicables directement dans l'entreprise.
Donc, une étude qui a commencé en 2019, donc il n'y avait pas de Covid. C'était le grain de sable qui est venu s'ajouter à déjà un déclin qui était un petit peu amorcé. Et donc, vous avez dû travailler aussi là-dessus, prendre en compte ce paramètre-là.
Tout à fait. Alors, fin de 2019, année scolaire, donc inscription en thèse en novembre, donc date de Covid, début tout de suite. Donc, le début, la première année d'une thèse, et en général, elle correspond à une recherche de l'état de l'art, c'est-à-dire toute la littérature scientifique, ce qui a été produit sur le déclin, sur le tourisme, sur l'hôtellerie. Donc, c'est vraiment, on lit beaucoup. Alors, on lit, on fait des résumés, on écrit, on essaie de se souvenir. Bon, c'est vraiment assez intense, mais c'est tout ce qui est l'état de l'art. Et donc, pendant cette année, jusqu'à donc 2019, été 2020, où là, on était Covid. Et d'où l'évolution du titre. En effet, j'ai travaillé sur le déclin. J'allais travailler sur le déclin de la destination touristique. Et j'ai introduit ce phénomène de Covid au milieu.
Ça veut dire quand même, vous êtes passionné sur ce sujet, parce que vous avez quand même consacré une grande partie des années précédentes.
Alors, une grande partie de ma vie, parce
que
on a des cours là-dessus à l'université, parce que quand on est chercheur, en fait, on ne fait que ça. Et une partie de sa vie sociale, enfin, toute sa vie sociale, en fait, est supprimée. Alors, surtout quand on travaille à temps plein et qu'on fait sa thèse à temps partiel. Donc oui, en effet, c'est une grande partie de ma vie et c'était toute ma vie.
On voit quand même un sourire, ça doit être un soulagement que de soutenir
alors
sa
oui
thèse.
Non. Oui, non, parce que le chercheur, vous avez utilisé le terme de passionné, un chercheur c'est passionné, et je le suis toujours, et je fais toujours de la recherche, donc sur d'autres sujets, mais toujours liés au tourisme, mais il faut être passionné, on ne peut pas se lancer dans un sujet aussi méticuleux, avec de la recherche, c'est un travail de fourmi, si on n'aime pas ça.
Et justement, comment on procède? Parce qu'il faut se dire, on va aller rencontrer des gens, on va aller les discuter avec eux, voir comment ils travaillent. Et il faut un fil conducteur qui doit être au top.
Alors oui. Alors grâce pour avoir ça, on a en fait des directeurs de thèse. Donc j'en profite pour remercier Olivier Bessier et Jacques Josseau, mes co-directeurs, qui m'ont guidée en fait. Et alors le fil directeur, on l'a travaillé ensemble, mais c'est vrai qu'ils m'ont aidée là-dessus.
Parce qu'en fait, la question, c'est fait comment on s'y prend, comment on démarre. On imagine qu'une thèse, bah, c'est forcément une pile de pages, mais il faut aller au contact. En fait, comment on démarre?
Oui, vous aviez parlé de tout à fait. Ça y est, ça revient. Merci, David. Du contact humain. Alors, il y a plusieurs types de thèses, mais on va simplifier. Il y a l'analyse quantitative. On travaille sur des chiffres, je simplifie, hein, je schématise.
Oui.
Et l'analyse qualitative, où en effet, là, on rencontre, il y a de l'humain, on travaille sur des discours et des entretiens. Et donc, en général, quand on explique des phénomènes, ce qui était ma recherche, on est sur une recherche qualitative. Et donc, il y a l'humain, et ça, c'est cette partie aussi qui m'a passionnée, parce qu'on va à la rencontre des gens. On essaye de comprendre leurs problèmes. Alors, ils attendent aussi des solutions et on essaye de leur apporter des solutions. Mais d'abord, on ne peut pas apporter de solutions adaptées si on n'a pas bien compris le problème. Donc, il y a toute cette partie humaine d'entretien qui est très lourde en termes de temps parce qu'elle est chronophage. Je suis allée voir les 137 hôtels de Lourdes à l'époque, donc en 2020.
Ah oui, c'est énorme.
Mais c'est aussi la partie la plus riche parce qu'on a des échanges absolument incroyables.
Comment on fait quand on travaille sur une thèse? En fait, on aménage un espace à la maison là pour être au calme. On travaille avec un laboratoire. Comment ça se passe en fait?
Il y a les deux. On est rattaché, donc en effet, par rapport à l'université, on est rattaché à un laboratoire. Donc moi, je suis rattachée au laboratoire TRI. C'est transition énergétique et environnementale. Donc il y a à Pau. Et je peux aller au laboratoire, puisque j'ai un bureau qui m'est dédié au laboratoire. Mais je peux aussi, et j'ai fait les deux, avec surtout chez moi, puisque j'habite à Lourdes, c'est quand même une petite heure de Pau. Donc j'ai privilégié le travail à la maison, c'est-à-dire qu'en effet, on pousse une partie de la chambre ou du salon et on en fait un bureau. D'où on n'a plus de vie sociale parce que même à la maison, on n'a vraiment plus de place.
Alors maintenant, au laboratoire, il y a certainement une porte avec cet écriteau « Docteur Nathalie Jarreau ». Ça doit vous rendre fière?
Alors, fière, oui. Après, bon, c'est un titre. C'est plutôt la recherche et le temps que j'y ai passé qui m'a intéressée. Et je suis le titre, oui, le titre, c'est l'accomplissement, mais ce n'est pas le plus intéressant.
Et alors, vous avez été reçue comment? Parce que peut-être que vos interlocuteurs ne connaissaient pas, enfin, n'appréhendaient pas ce que vous attendiez d'eux. Donc, vous vous êtes présenté et vous leur avez expliqué ce que vous vouliez faire.
Alors, question très intéressante me fait penser à la méthodologie que j'ai utilisée. Parce que j'étais praticien-chercheur. Alors, c'est un mot un peu scientifique. Praticien-chercheur, c'est celui qui fait de la recherche sur le terrain empirique sur lequel il travaille. Il est professionnel. Et c'était mon cas. Alors, on a là aussi l'état de l'art qui dit... C'est très bien, puisque le praticien-chercheur a accès à beaucoup plus de choses. Des données statistiques, par exemple, à l'Office de tourisme, j'avais accès, qui sont fiables. Par rapport à certaines données, on n'est pas sûr que ce soit les bonnes. C'est aussi, et je reviens à votre question, ça m'a permis d'ouvrir les portes, puisque je me suis présentée, c'était très clair, je me suis présentée en tant que directrice marketing de l'Office de tourisme, et faisant une thèse, et donc aujourd'hui, je venais avec ma casquette de doctorante voir les hôteliers. Mais le fait de travailler à l'Office de tourisme avait plus de valeur aux yeux des hôteliers, à tort ou à raison, ça c'est un autre jugement, c'est pas la question du jour, mais avait plus d'impact aux yeux des hôteliers que le doctorant qui fait son étude.
Ils pouvaient identifier plus facilement que si quelqu'un appelait, leur disait « je fais une thèse ».
Je veux tout savoir sur votre établissement, ça peut effrayer, je comprends.
Tout à fait. Et donc, j'ai été très bien reçue dans l'ensemble. Ça a été pas une surprise, ah, c'est bizarre, je sois reçue, mais c'est vrai qu'en général, tous, on est « oh là là, on fait une étude, on va me poser des questions, j'ai une enquête, il va falloir que je réponde, ça va prendre combien de temps ?» On est tous un peu comme ça, donc je pensais avoir beaucoup de refus, et en fait non, j'ai été très bien accueillie. J'ai eu quelques refus, des personnes qui ont pris peur, j'ai eu, je cite un verbatim, « lourde, c'est petit, ça parle ». Bon, attention, je suis dans une recherche scientifique, je réponds à des règles et des normes, et toutes les données récupérées sont absolument anonymes, inidentifiables.
Oui, donc, c'est ça la différence avec vous, Delphine. Vous, quand on vous parle, bah forcément, il y a l'article.
C'est dans le journal le lendemain.
C'est dans le journal, tandis que ce n'est pas le même travail que fait Nathalie Jarreau. Vous avez parlé, évidemment, du déclin de l'hôtellerie à Lourdes, alors au regard plutôt des années 90, et vous dites que, dans votre thèse, qu'en seulement 20 ans, l'hôtellerie de Lourdes est passée de 3,5 millions de nuitées à 2 millions aujourd'hui. Comment vous pouvez nous décrire en fait le parc hôtelier de Lourdes aujourd'hui avec ce chiffre?
Alors, ce sont des nuitées. Attention, donc ça ne veut pas dire que la fréquentation de Lourdes a chuté d'autant.
Les nuitées, c'est-à-dire le nombre de nuits passées sur place.
Passées sur place. Donc on a toujours beaucoup de personnes qui viennent à Lourdes, qui restent à la journée, qui dorment à Pau, on peut imaginer beaucoup de choses chez des amis. Mais donc, ça ne veut pas dire que la fréquentation a chuté d'autant, d'une part. Et d'autre part, ce qu'il est important de noter, c'est que, en fait, on avait aussi des gens qui restaient plus longtemps, des pèlerinages par exemple, qui venaient sur une semaine et qui sont aujourd'hui sur 3 jours, sur 4 jours. Donc, qui diminuent le nombre de nuitées dans l'hôtellerie également.
Aujourd'hui, quand on regarde la ville de Lourdes avec un peu de hauteur, alors est-ce que c'est vraiment la deuxième ville hôtelière de Lourdes? D'ailleurs, tout à l'heure, on se posait
France,
la question.
De France.
Non. C'est une discussion?
Alors, c'est
mythe ou réalité? Tiens, d'ailleurs.
Avec Nice, ils sont un petit peu... C'est Nice, c'est Lourdes, c'est
Lourdes.
Oui, Nice,
c'est l'agglomération de Nice aussi.
C'est en termes de capacité, donc en termes de nombre de lits.
Ah oui, d'accord.
Voilà, aussi.
Il y a combien de lits à peu près à Lourdes disponibles? Enfin, en tout cas, au moment où vous faisiez les recherches, c'est des dizaines de milliers de lits, en fait.
C'est 20 000.
Ah oui, 20 000, ouais. C'est ça, c'est 20 000 lits. Ah oui, donc ça veut dire que finalement, chaque Lourdes, si on a envie de dormir à l'hôtel, il y aurait finalement de la place pour le même nombre d'habitants, et peut-être même plus. Par contre, effectivement... Il dépend des jours et des mois de l'année quand on va à Lourdes, mais on voit aujourd'hui des établissements fermés. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous?
Alors, établissements fermés, il y a l'hôtellerie certes, il y a aussi des magasins. Ça, il faut, c'est le signe du déclin de la destination. Et c'est un cercle vicieux aussi puisque c'est moins attractif. Donc les gens l'année suivante ne reviennent pas. Bon, c'est tout un cercle. Mais tous ces hôtels fermés... Il y a plusieurs raisons. Alors, il y a moins de clients, donc d'une part. Et puis, il y a aussi l'hôtellerie lourdaise, ça date depuis longtemps. Et donc, beaucoup de personnes qui sont arrivées, des familles, qui soit n'avaient pas d'enfants, soit ne voulaient pas, les enfants ne voulaient pas reprendre, ou eux ne voulaient pas forcément vendre à leurs enfants et autres. Et donc, en fait, des hôtels qui sont restés à l'abandon, on peut dire ça, puisque pour certains, c'est le cas. Et qui n'ont pas de repreneurs, en fait, aujourd'hui.
C'est vrai qu'il y a quand même plusieurs visages aujourd'hui dans l'hôtellerie de Lourdes, évidemment. Cette lignée familiale de l'hôtellerie à Lourdes. Et puis, et des établissements extrêmement dynamiques, renouvelés. Il y a quand même une grande diversité. Ça, vous avez su le mesurer?
Alors oui, et puis ça se voit, ça c'est extraordinaire. C'est ça qui fait la richesse de l'hôtellerie lourdaise, d'avoir une telle diversité. Alors en termes de gamme, hein, puisqu'on va du 0 au 5 étoiles tout simplement, mais aussi en termes de, vous l'avez dit, dynamisme. Il y a aussi tout ce qui est familial. Il y a des hôtels qui sont haut de gamme, mais qui ont toujours cette idée de « quand vous venez dans mon hôtel, c'est comme à la maison, on est une famille ». Et indépendamment du nom d'étoile. Et il y a des hôtels qui sont aussi petits, qui n'ont pas d'étoiles, mais qui ont un accueil tellement chaleureux des gens. Alors, c'est vétuste à l'intérieur, mais peu importe. L'hôtel est plein parce qu'il y a le personnage, l'humain. Donc, une diversité en termes de gamme, de propositions et puis de personnes, parce que c'est de l'humain aussi, et surtout à Lourdes. On va voir son hôtelier plus que son hôtel.
Oui, c'est vrai. Et sur la période sur laquelle vous avez réalisé cette thèse, donc le Covid est arrivé, et est-ce que vous avez remarqué un peu après, puisque vous avez fini en 2021, s'il y avait eu une remise en question ou une évolution des pratiques par rapport justement à cette crise sanitaire ?
Alors, question très intéressante qui fait l'objet d'une hypothèse dans ma thèse, en effet, qui est stipulée sous la forme de l'innovation. Donc, est-ce que, suite au déclin et à cette crise, en fait, là, c'est vraiment la crise sanitaire de la Covid, donc avec toute une définition de la crise dans la thèse, d'un point de vue scientifique, mais en tout cas, une crise, pour simplifier, c'est un problème à un moment donné conjoncturel, et donc il faut y répondre. Et en général, une réponse à la crise, c'est assez rapide, dynamique, et c'est un changement. Et là, en 2021 en tout cas, au moment des entretiens qualitatifs qui ont été assez beaucoup plus longs, hein, où j'ai passé parfois 2 heures avec chaque hôtelier, pour simplifier, en règle générale, il n'y a pas de remise en question directe. Bien évidemment, là encore, on est sur de la diversité. Il y en a oui, il y en a non. Mais en règle générale,
quand il n'y a pas de remise en question, parce que c'est vrai que comme partout, mais on a ce souvenir quand même dans les journaux de voir une ville fantôme pendant la crise Covid, rideaux de fer partout, plus de personnes à Lourdes. Et vous dites pas de remise en question parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait ?
Parce qu'il y a une confiance dans le système, en fait, du pèlerinage. Et donc, une attente, et donc le non-remise en question va avec l'attente, une attente que ça revienne, je cite un verbatim, ça revienne qu'on a. Donc, une confiance dans le pèlerinage. De toute façon, la Covid, ce sera terminé, c'est conjoncturel, ok. Et donc, ça va revenir comme avant. On aura nos groupes de pèlerinage et ils vont revenir et on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, ça ne va pas changer.
Donc, c'est juste une parenthèse. On
Tout
attend et on recommence derrière.
Pour certains, ça a été, et j'ai donc l'autre cas, c'était bien cette crise, là encore je simplifie, puisque ça nous a permis de réfléchir, ouais. De nous poser, ouais. Et de se dire que, en fait, notre système de pension complète, tout compris, c'est peut-être pas très lucratif et on va peut-être imaginer autre chose. Donc on a vraiment les deux où c'est bien, je me suis posée. Ou alors, ben non, on va attendre que ça revienne et tout va bien se passer.
On va marquer une pause avant d'entrer un peu plus en détail dans l'innovation, dans toutes ces préconisations que Nathalie Jarreau, docteur en sciences de gestion, vous expliquait dans votre thèse, le déclin d'une destination touristique à l'aune de la Covid-19, l'analyse et les perspectives pour le secteur de l'hôtellerie à Lourdes. On s'arrête un peu.
Juste un petit peu.
Un tout petit peu et puis on revient. À tout de suite.
L'heure de pointe, David Torchala.
Nous sommes dans la deuxième partie de l'heure de pointe sur Radio Présence, toujours avec Delphine Pereira. Ça va Delphine ?
Je ne suis pas partie, j'attends la suite.
On attend la suite, vous qui êtes journaliste à la Dépêche du Midi, la Nouvelle République. Évidemment, c'est un sujet qui est intéressant et on le traite avec Nathalie Jarreau. Ça va toujours, Nathalie ?
Toujours très bien.
Vous êtes docteur en sciences de gestion et vous avez soutenu une thèse que vous venez nous présenter un pavé, mon Dieu, si vous voyez l'image, un pavé, vraiment une étude sur le secteur de l'hôtellerie de Lourdes, avec un constat un peu difficile. En première partie, on parlait beaucoup de déclin structurel depuis de nombreuses années, et puis surtout cette crise de la Covid-19 qui a vraiment bouleversé les habitudes, et passé, et puis en même temps, certainement accéléré aussi, on va le voir avec vous, un certain nombre d'innovation. Pour autant, à Lourdes, on ne peut pas dire malgré tout que l'hôtellerie est en déclin. On y voit quand même un certain dynamisme. Comment vous voyez ça? On a parlé tout à l'heure d'hôtels fermés, d'hôtels actifs. Il y a quand même une grande diversité dans l'hôtellerie quand on la regarde aujourd'hui à Lourdes en 2025.
Oui, tout à fait. Il y a une grande diversité, donc on le disait en termes d'étoiles de gamme, etc. En termes de personnes, humains, il y a aussi en termes de taille. Puisque il y a des hôtels qui ont 300 chambres et il y a des hôtels qui ont 10 chambres. Donc ça c'est très important parce que ça permet d'accueillir différents types de clientèle. Et puis il y a un dynamisme, on parlait d'innovation. Une partie de la thèse a été réalisée sur l'innovation technologique, puisque j'ai travaillé sur la transition numérique. Et là, la Covid a été un accélérateur incroyable de ça, et qu'on le veuille ou non, une entreprise a dû se numériser à ce moment-là. Donc, c'est vrai que tout ce dynamisme-là a permis aux hôtels de Lourdes, en tout cas, d'être plus présents en ligne. Et d'où, bon, forcément, aujourd'hui, la présence en ligne est indispensable. Et donc, ça a permis de renouveler un petit peu et donc de remédier au déclin.
Et c'est quelque chose que les hôteliers appréhendent bien. Ils sont à l'aise, justement, avec tout ce qui est réseaux sociaux, sites internet de leur établissement, parce qu'il a fallu s'y mettre un peu vite, des fois. Et c'est pas toujours évident.
Oui, alors à l'aise, en effet, je n'utiliserai pas forcément ce terme. Mais après, il y a plusieurs solutions. Il y a ceux qui sont vraiment pas à l'aise et qui sous-traitent. Pourquoi pas? Et donc après, le client final, le consommateur, il voit les réseaux sociaux, et que ce soit lui réellement l'hôtelier ou une autre personne, notamment une agence de communication, qu'il le fasse, on voit pas la différence. Ou alors, il est pas à l'aise et il veut comprendre et il veut s'y mettre. Et donc là, il y a eu des formations, plusieurs qui ont été proposées sur le territoire. Et puis des formations en ligne, il y a des MOOC, il y a plein de choses gratuites aujourd'hui. Et il y a des hôteliers qui s'y ont mis. Moi, je me sens pas à l'aise, donc c'est une des manques de compétences en numérique, en fait, un des critères qui est ressorti de l'analyse, en tout cas. Et avec comme solution, ben, moi, je ne suis pas lèche, donc je me forme et je veux le faire.
Aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité, parce que c'est quand même un autre métier. Quand on est hôtelier, en fait, le travail, c'est quand même d'ouvrir son hôtel, de proposer de belles chambres, de proposer de bons repas, etc. C'est quand même un autre métier pour eux.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est une nécessité absolue.
Je ne sais pas si on peut dire malheureusement ou pas, mais c'est une nécessité, oui. C'est la réalité, et surtout en période de Covid, les restaurateurs, s'ils n'ont pas la commande en ligne et la livraison, oui, là, ils n'étaient pas à l'heure du jour et ce n'était pas possible de survivre. Et pour un hôtel, pour être visible, oui, ils sont obligés... Oui.
Et donc,
c'est
obligé
obligation.
Quelque part d'entrer aussi dans un terrain aussi concurrentiel, parce que à la fois, quand on est à Lourdes, évidemment, les hôtels sont plutôt les uns à côté des autres. Donc, vu le flux, on se dit, on peut toujours trouver une chambre vide. Aujourd'hui, ça veut dire aussi des compétences marketing, quoi. Finalement, il faut aussi se positionner en prix, en attraction, etc. C'est pas facile, ça, non plus, pour un hôtelier.
C'est compliqué. Alors, c'est compliqué si on n'a aucune notion. Mais en fait, on a toujours des petites notions personnelles, parce qu'on a tous, à titre personnel, un compte Facebook, un compte X maintenant. Et donc, on sait un petit peu comment ça fonctionne. Et après, on n'a pas besoin d'une connaissance. Alors, je reviens, attention, au contexte de Lourdes, où on est principalement dans des pèlerinages. Donc, c'est vrai que le consommateur, le client final qui vient en individuel, lui, il va sur les réseaux sociaux, il va sur Booking, il va réserver en ligne. Le pèlerinage, il va plutôt passer par une agence, il va passer par un diocèse. Donc, il aura moins besoin de... Il aura besoin de cette présence en ligne. Il y a beaucoup d'hôteliers qui me disent, bon, ben, il y a des gens, ils sont venus du pèlerinage, mais ils ont regardé sur Booking quelles notes j'avais. Donc, voilà, ils s'en sont servis comme information, mais pas forcément dans l'acte d'achat. Donc, on n'a pas besoin d'être super calé en digital pour pouvoir développer son image. C'est mieux, c'est un métier, je suis tout à fait d'accord. Et encore une fois, il y a des cours en ligne, il y a plein de formations disponibles. On peut sous-traiter. Et on peut aussi faire comme ci, comme ça, au moins que son hôtel soit visible.
Vous n'êtes pas contenté de constater, Vous avez aussi travaillé sur ce que les hôteliers pourraient faire ou ce qu'on pourrait faire pour les hôteliers pour avancer un petit peu.
Tout à fait, puisqu'une thèse, en effet, en sciences de gestion, notamment, l'objectif, c'est qu'il y ait des préconisations qui en sortent, parce que ce n'est pas l'objectif de toutes les thèses. Hein. Souvent, c'est vraiment plutôt des constats. Et donc, en sciences de gestion, on est plutôt sur, on fait un constat et on fait des préconisations. Alors, attention, je ne prétends pas résoudre tous les problèmes de l'hôtellerie à l'eau. Mais c'est vrai qu'avec l'analyse et une prise de recul, j'ai pu faire un certain nombre de préconisations qui pourraient, pour certains, encore une fois, c'est pas adaptable à tous les hôtels, et certains les piocher dans la préconisation 1, la 2, la 3, et pour pouvoir...
Alors, par exemple, une préconisation...
Alors, attention, c'est pas encore publié. Préconisations, recommandations, idées, pistes de solutions, hein, on va donner toutes ces idées-là. Mais... Une, on revient à des données marketing, en fait, qui serait la segmentation, par exemple. Je vais en prendre deux, la segmentation et l'externalisation. Alors, la segmentation, tout le monde le fait plus ou moins en termes dans son hôtel. Il a une clientèle axée pèlerinage et une clientèle axée sport et vélo, par exemple. Donc, ils ont segmenté leur clientèle. Mais moi, je parlerai plutôt d'une segmentation au terme global de toute l'hôtellerie lourdaise. Ça leur permettrait d'avoir un hôtel qui est vraiment spécialisé pèlerinage, parce que c'est un outil de travail adapté, un hôtel de 300 chambres qui fait du groupe très bien. Et cet hôtel sera moins adapté pour le vélo, par exemple, ou éventuellement la clientèle de couple qui vient pour la Saint-Valentin. C'est moins cocooning, un hôtel-là. Et l'autre hôtel sera segmenté et spécialisé pour un autre type de clientèle. Et donc, ils ne se feront pas la guerre, en tout cas moins la guerre.
Et ça, vous pensez qu'en fait, Lourdes est capable de proposer en fait, toute cette diversité-là?
Ça va avec une autre... Tout à fait, toute la diversité, oui. Et ça va avec une autre de recommandation qui est la collaboration et la coopération.
Ah oui, entre hôtels.
Entre hôtels, pourquoi pas?
Aujourd'hui, il existe quand même des représentations aussi syndicales, des groupements hôteliers. Est-ce que vous avez pu les interroger? Quels sont un peu leur regard aussi sur l'activité, puis leur rôle aussi, enfin, c'est peut-être pas forcément aussi le lieu de recommandations non plus de leur part. Moi, je m'interrogeais en tout cas sur la qualité. Parce que je crois que quand on vient à Lourdes, forcément, on n'attend pas non plus une prestation de station balnéaire avec les pétales de rose sur le lit. Je ne vais pas trop souvent à l'hôtel. Mais enfin bon, on n'a pas forcément envie d'avoir la coupe de fruits. Non, parce qu'en fait, on vient aussi en pèlerinage dans un lieu évidemment modeste, connu et pour quelque part une expérience aussi de dépouillement personnel, mais finalement malgré tout la qualité doit être au rendez-vous. Est-ce que dans les standards d'accueil de l'hôtellerie tout, est-ce que la qualité a baissé? Est-ce que c'est un objectif d'augmenter la qualité? Enfin, qu'est-ce que vous avez pu mesurer?
Alors, ça dépend des clientèles, en fait. Et c'est vrai, vous dites, on n'attend pas forcément les pétales de rose et tout, mais la consommateur, en règle générale, dans le tourisme, demande de plus en plus de qualité. Et ça, les hôteliers le voient, puisqu'ils disent, mais les clients sont de plus en plus exigeants. Le terme exigeant est revenu très souvent. Donc, pour pallier à ça, l'hôtel et l'hôtelier doit forcément augmenter sa qualité. Et augmenter la qualité, ça peut aller avec l'outil travail, soit on fait des travaux, on modernise, on modifie. Ça peut être avec du service aussi, on ajoute des services, des locations de plusieurs hôtels louent des voitures, des scooters électriques. On reste dans un tourisme durable, n'est-ce pas? Et ça peut être aussi dans l'humain, dans la présentation. Il y a beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'augmente pas la qualité forcément avec de l'investissement financier. Il y a beaucoup de travail qui peut être fait sans augmenter le budget.
Et vous parliez tout à l'heure de collaboration entre hôtels, et ça peut concerner aussi les repas.
Tout à fait. L'autre, je voulais parler de la segmentation et de l'externalisation. Et en effet, en termes de collaboration restauration, c'est une donnée qui est revenue très souvent L'hôtelier à Lourdes a des difficultés. Alors, des difficultés, c'est juste, c'est compliqué, ça coûte cher et ça prend du temps de faire manger tous ces groupes. C'est une demande des pèlerinages aujourd'hui qui ont besoin du tout compris et de ne pas se poser de questions. Mais ça ne veut pas dire que l'hôtelier doit fournir ça. Ça peut être une cuisine centrale, ça peut être un hôtel sur trois qui s'occupe de la restauration. Il y a plein de choses à penser, mais pour que chaque hôtel n'ait pas à supporter le coût, c'est vrai qu'en ressources humaines, avoir un chef cuisinier, c'est difficile, c'est compliqué, il y a beaucoup de turnover. Donc pourquoi pas externaliser cette partie restauration. Ça n'empêchera pas l'hôtelier de vendre le tout compris, mais ce sera une partie qui est externalisée. Et pareil, cuisine centrale, on peut imaginer que le consommateur, le visiteur va dans la cuisine. On peut imaginer que la cuisine livre l'hôtelier. Il y a plusieurs choses à mettre en place.
On voit vraiment que ce travail de thèse que vous portez, Nathalie Jarrot, sur le secteur de l'hôtellerie va loin et aussi dans la recommandation quasi stratégique aussi pour le développement de l'hôtellerie. Est-ce que vous pensez que le Covid finalement a été un stimulus pour se dire voilà peut-être aussi une opportunité de voir l'activité hôtelière un peu héritière aussi du 19e siècle, de la voir autrement et est-ce que vous pensez aujourd'hui que les hôteliers d'aujourd'hui, de 2025, sont prêts aussi à ce changement?
Alors, qu'ils soient prêts ou pas, en fait, la Covid, elle a modifié le comportement du consommateur et du visiteur. Et donc, c'est là que l'hôtelier doit s'adapter. Et donc, c'est surtout là-dessus que, oui, la Covid a modifié le comportement du consommateur et donc, forcément, va modifier l'adaptation de l'hôtellerie.
Pour vous, peut-être...
Justement, quatre ans après la thèse, la radiographie de Lourdes, comment vous la voyez? Parce que vous êtes toujours, de toute façon, à Lourdes, vous suivez toujours un petit peu ce qui s'y passe dans les hôtels, etc., pour peut-être une suite ou quelque chose comme ça. Mais comment vous voyez cette image?
Alors là, il y a beaucoup de recherches. Moi, ça me fait penser à... Il faut continuer, il faut... Alors, on va pas continuer non plus.
Le chercheur qui doit s'arrêter de chercher ou continuer. C'est un dilemme terrible, ça.
Il ne trouve jamais le chercheur, il continue à chercher. Et c'est vrai qu'on a envie de faire une recherche dans quelques années. Alors, pas forcément une thèse, une recherche aussi poussée, mais aller voir un petit peu, est-ce que vraiment ça a été modifié ou pas? Moi, j'ai travaillé sur l'innovation, j'ai travaillé sur la transition numérique. J'ai travaillé aussi sur le tourisme durable. Donc, pourquoi pas aller regarder ça en termes écologiques à Lourdes. On peut aussi aller voir dans d'autres villes sanctuaires en France, puisqu'il y a tout un réseau. Et pourquoi pas aller regarder quel est l'état de chez eux. Et puis, est-ce qu'ils ont mis des solutions en place et comment ça marche? Et évidemment, à l'étranger aussi. Il y a Fatima, il y a beaucoup d'autres villes qui ont les mêmes problématiques que Lourdes. Et comment, eux, ont-ils vu ça? Donc, il y a plein de recherches et de comparaisons.
Qui ont vécu la même chose, au même moment.
Moi, je crois que Nathalie Jarrot ne va pas s'arrêter de chercher. Merci, Nathalie Jarrot, vraiment, d'avoir pris le temps. Vous qui êtes docteur aujourd'hui en sciences et gestion, puisque nous honorez en venant nous visiter juste quelques jours après avoir soutenu votre thèse, qu'on espère sera bientôt publiée. À un moment, ça se publie, les thèses.
Oui, tout à fait. Alors, l'université est en train de vérifier. Il y a plein de choses à vérifier, normes, et elle sera publiée dans les... Alors, peut-être pas semaines, mais dans les mois qui viennent.
Ah ouais, quel travail à
l'université. On vous tiendra au courant.
Ah oui, bon, l'université de Pau et des pays de l'Adour, vraiment, merci. Ça fait du bien de voir que chez nous, il y a aussi de bons penseurs et de bons chercheurs sur des... Voilà, si une thèse n'est pas non plus toujours accrochée, suspendue dans le temps. Là, on est vraiment dans le concret. Merci d'avoir pris le temps pour nous, auditeurs de Radio Présence, de nous avoir expliqué ça. Et puis, nous, on continue notre émission la semaine prochaine. On s'arrête un petit peu.
Hein? Quand vous voulez.
OK. Ça nous laisse le temps de vous chercher, de vous dénicher encore une fois de super invités.
Voilà, on va lui faire un petit coucou à Anne qui n'a pas pu venir aujourd'hui.
Oui, Anne Deslois. Oui, vraiment. Portez-vous bien, Anne. On espère vous retrouver très, très vite.
Et merci pour l'invitation.
Allez, à bientôt.
L'heure de pointe, David Torchala.